France Inter. Je suis de la génération Z. Si, quand je cite un texte, j'ai le droit de m'enlever 25 ans. Bref, je suis de la génération Z et je trouve ça intéressant d'utiliser les outils qui sont à ma disposition. J'avoue que j'ai aussi un peu la flemme de temps en temps, souvent même. C'est pour ça que j'ai demandé à une intelligence artificielle sa définition de la différence. Voici sa réponse. Imagine que tu as deux choses, disons une pomme et une orange. La différence entre elles, c'est ce qui les rend uniques ou spéciales. Par exemple, la pomme peut être rouge et sucrée, tandis que l'orange est orange et juteuse. La différence, c'est ce qui fait que chaque chose est un peu spéciale à sa manière. Je ne sais pas si vous, vous êtes plus rouge sucré ou orange juteuse, mais franchement, la définition de la différence façon ChatGPT, c'est le monde des bisounours. Hein. Selon moi, c'est quand même un petit peu plus compliqué chez les humains qu'au rayon fruits.
En marge. Julia Foyce sur France Inter.
Alors, je sens un peu de déception. Vu le titre du spectacle, il y en a certains qui s'attendaient peut-être à me voir arriver avec des accessoires. Alors désolé les gars, je suis pas en fauteuil, je roule pas encore. J'ai pas le permis. J'ai rien contre les gens en fauteuil. Hein. Mais c'est juste que le titre du spectacle, c'est « Handicapée méchante », pas « Méchamment handicapée ». Moi je suis plutôt une Andy light, bio, sans gluten. Moi je suis malvoyante, entre autres, parce que je suis aussi mal aimée, maladroite, mal dans ma peau. Un peu comme vous.
Bonsoir, bienvenue Lilia Benchaban.
Bonsoir.
C'est vous qu'on entend là dans cet extrait de votre spectacle Handicapée méchante, clin d'œil involontaire à ce mouvement de lutte né dans les années 70 contre la ségrégation des personnes handicapées. On en est encore là, quand on est handicapé, on a intérêt à être très très gentil et à se faire tout petit.
Ouais, je pense qu'il y a un côté où on se dit, bah voilà, déjà on dérange par notre présence ou nos besoins particuliers ou spécifiques, donc bon, on va essayer d'être gentil. Pour déranger le moins possible, en fait. C'est ça, malheureusement.
Et de faire des blagues. C'est ce que je vois beaucoup sur Instagram. Beaucoup de personnes qui mettent en scène, notamment leurs enfants en situation de handicap. Il faut toujours qu'il y ait du storytelling, qu'il y ait de la beauté, de la joliesse. Il faut que ce soit mignon pour que ce soit regardable. C'est un peu ça, l'idée.
Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment dommage, parce qu'en fait, on fait partie de la société comme tout le monde. Et je trouve ça dommage qu'on ait besoin de scénariser et de rendre les choses un peu plus belles pour qu'elles soient acceptables ou supportables, en fait.
Vous, vous êtes atteinte d'albinisme et donc malvoyante et donc très très sensible à la lumière. Par ailleurs, RIP, mon bronzage, comme vous l'écrivez dans votre livre, Ma vie est un blind test. C'est un extrait de ce livre que je viens de lire. Et oui, la différence est donc un peu plus compliquée chez les humains qu'au rayon fruits. Vous l'aimez d'ailleurs, ce mot différence, ou du moins est-ce que vous l'avez apprivoisé ?
Moi, c'est pas un mot qui me gêne particulièrement parce que bah, en fait, au fond, on est tous un peu différents. Enfin, en tout cas, on ne se ressemble pas. Donc, ouais, je sais que ça peut gêner parfois qu'on emploie ce terme. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça.
Vous racontez sur scène, comme dans ce livre, comment petit à petit, vous avez fait la paix avec vous. Alors, je vous tends ce miroir, et c'est le rituel de cette émission, mais déjà avec vous, un premier pas de côté. C'est-à-dire que là, pour le coup, évidemment, votre rapport au miroir, il est particulier, puisque est-ce que vous pourriez me dire, par exemple, ce que vous voyez quand vous vous regardez au sens quasi littéral du terme, pour le coup ?
Non, je distingue mes cheveux, mon visage.
Ouais. Ouais, voilà. Est-ce que le fait d'avoir une image plus approximative libère d'un certain nombre d'injonctions, ou est-ce que ça complexifie justement son rapport au physique ?
Et c'est marrant parce que je me suis posé la question récemment et je me suis dit, vous savez, on a des phases parfois où on s'aime un peu moins dans la vie. Ouais. Ça ne dure pas très longtemps, mais des fois on s'aime un peu moins. Et je me disais la dernière fois... Bah, en ce moment, je suis dans la phase où je ne m'aime pas trop. Alors imagine si je me voyais, peut-être que je m'aimerais encore moins finalement. Donc franchement, je ne sais pas trop. Je sais que c'est gênant pour plein de raisons différentes. Mais en tout cas, pour me voir moi, ça va, ça ne me dérange pas plus que ça.
France Inter.
Viennent faire les gendarmes de Saint-Tropez dans votre histoire, Lilia Benchaban ?
Les gendarmes de Saint-Tropez ont une place très particulière dans cette histoire, parce que en fait mon grand-père nous a fait regarder à mes frères et sœurs et moi toutes les cassettes des Louis de Funès. Voilà. Donc on a vraiment grandi avec ça. Tous les soirs on mettait une cassette. Ma préférée, la soupe aux choux. Et après, vraiment, on les mettait tous les soirs. C'était notre petit DVD, notre petite cassette, parce que c'était l'époque des cassettes encore.
Et ces vacances à Fréjus, ça se passait comment ?
C'était des vacances très familiales. Ouais. Donc vraiment, il y avait un côté où c'était le vivre ensemble. Mmh. On venait chambouler le calme et la paix de la maison de mon grand-père. Et parce que j'ai quand même 4 frères et sœurs, donc on était assez nombreux. Et on restait 2 mois, toutes les vacances d'été. Puis c'était donc repas de famille, aller à la plage, on profitait de nos vacances. On voyait
c'est des grandes tablées qui durent des heures.
Exactement.
Beaucoup d'engueulades et beaucoup de rires aussi. C'est un peu l'idée.
C'est un peu l'idée, mais avec beaucoup de discipline. Parce que mon grand-père, quand même, est quelqu'un de très strict. Donc, on a beaucoup appris la discipline à table. On n'avait pas le droit de mettre... Enfin, nos mains devaient être les deux sur la table quand on mangeait. Pour quitter de table, il fallait demander la permission. Enfin, c'était vraiment une éducation à l'ancienne, etc. Mais ça nous a appris la rigueur.
Que ce soit pour les filles ou pour les garçons
Pour les deux.
Ouais.
C'était vraiment pour les deux. On était tous logés à la même enseigne.
Et quand vous n'étiez pas chez votre grand-père, alors parce que votre mère a rejoint votre père qui, lui, vivait à Lille, donc toute autre ambiance, vous avez grandi dans cette ville là où vous vivez toujours. Oui. Quand vous êtes en famille nucléaire, je dirais, vos parents et les 5 frères et sœurs, vous en diriez quoi de l'ambiance à la maison ?
Je dirais que c'était une ambiance très familiale, assez chaleureuse. C'est souvent les dîners qu'on fait tous ensemble. On est tous à table. Personne n'a le droit de manger chacun de son côté. Hein. C'est
un grand sens de la famille, quoi.
Ouais, grand sens de la famille très important et jusqu'à très longtemps.
Et quel genre d'éducation est-ce que vous avez reçu en termes de valeurs, en termes de cadre éducatif ?
En fait, mon grand-père est le père de ma mère. Donc j'ai reçu une éducation, éducation assez stricte, où ma mère et mes parents en général sont pas très souples sur les valeurs et sur la discipline, etc. Donc l'école c'est important, le respect c'est important, la politesse c'est important.
Voilà pour la photo d'ensemble. Voilà. Si on zoome sur vous maintenant, Lilia, vous naissez donc le 7 novembre à la maternité de Fréjus.
Quand l'infirmière elle lui a dit « le truc blanc là-bas c'est votre bébé », ma mère, elle a dit « Ah, moi, j'ai rien à voir dans l'histoire. » L'infirmière lui a dit « Si, si, madame, toutes les preuves sont là, ça sort de vous, on a même la vidéo. » Du coup, très, très vite après ma naissance, les médecins sont venus voir mes parents pour leur expliquer un petit peu ce qui se passait. Bon, bah voilà, un albinos, ça voit pas, ça bronze pas, et en général, c'est des lapins, mais pas là. Et je pense qu'ils voulaient les rassurer un petit peu. Parce qu'à mon avis, avoir la gueule de ma mère, ils avaient peur que je finisse dans le congélateur. En plus, moi, je viens de Lille, donc c'était prévisible, tu vois.
La réaction de votre mère occupe une bonne partie de votre livre, comme de votre spectacle. Vous dites « Le plus gros complexe de ma mère, c'était moi ». Elle vous l'a dit ou vous l'avez vécu comme ça, petite ?
En fait, j'extrapole énormément dans le spectacle. Pour avoir un peu une caricature. Exactement. Ouais. Mais en réalité, j'ai pas vécu ce moment. Je l'ai vécu indirectement parce que j'étais nouveau-née, donc je me souviens absolument de rien. Mais j'ai eu des petits échos par-ci par-là, notamment ma tante qui était présente le jour de ma naissance et donc qui m'a expliqué un petit peu, qui m'a dit voilà, on était un peu choquée que tu sois blanche et blonde.
Parce que vous êtes la seule de la famille. Hein.
Exactement. Voilà.
Vous dites d'ailleurs, je suis la tache blanche.
Oui, tout à fait. Famille. C'est vraiment tout à fait. C'est-à-dire qu'on mettait le flash sur la photo de famille, on voyait que moi, blanche, les cheveux très blancs, les yeux très rouges. J'étais petite singularité.
Mais ça, c'est pas mal d'être singulier. Enfin, je veux dire, ça peut être terrible et ça peut être très chouette dans le sens où c'est à la fois l'idée d'être un intrus, quelque part, et en même temps d'être une rareté. Comment vous l'avez vécu ? Je parle de petite fille, je parle de à la maison.
Alors, à la maison, justement, c'était vraiment une safe place où je l'ai vécu. J'étais la petite protégée de tout le monde, de mon grand-père, le grand-père très strict. C'est-à-dire que moi, j'avais le droit de faire des bêtises et je ne me faisais pas disputer. Voilà, c'était un peu mon flex, si je peux me permettre. Ça ne marchait pas avec ma mère, mais ça marchait bien avec mon grand-père. Et donc, j'étais la protégée de mes grands-parents, la protégée de mes frères et sœurs.
Vous êtes la numéro 2 sur 5.
Exactement, je suis la numéro 2 et donc j'ai la chance d'avoir une grande sœur au-dessus de moi qui m'a toujours défendue, soutenue, protégée, etc.
Une fois la stupeur de la naissance passée, vos parents se sont saisis très vite, ce que vous dites aussi dans votre livre, c'est l'idée que vous serez traité exactement comme vos frères et sœurs, il n'y a pas, pour vos parents en tout cas, oui, pas de différence, jamais, jamais, jamais.
J'ai jamais entendu ma mère dire « Oh, laisse-la tranquille, elle voit pas, laisse-la tranquille, elle est handicapée, etc. etc. » J'ai jamais... Ce qui est génial, c'est que vraiment, au contraire, moi, j'essayais de me servir de mon handicap comme une excuse. Souvent, je sors l'anecdote de l'aspirateur. C'est-à-dire où je disais à ma mère « Ma maman, je peux pas passer l'aspirateur parce que je vois pas et tout, je voulais pas participer aux tâches ménagères. » Et elle me disait « Tu vois les joints du carrelage, tu les vois les traits ? Eh ben, tu passes dans chaque carré. » Et donc, c'est comme ça que j'ai appris que dans la vie, on pouvait tout faire, en fait. Et donc, non, j'ai pas...
Sauf que, qu'on le veuille ou non, il y avait quand même des spécificités dans votre enfance, parce que vous avez passé pas mal de temps à l'hôpital au début, les premières années. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Qu'est-ce que les médecins cherchaient, en fait ?
Un peu de tout. Ouais. D'abord, il y a le côté où, quand on vous dit « votre enfant est malvoyant », en même temps, l'enfant parle pas, on sait pas ce qu'il voit. Donc, okay, il faut attendre que l'enfant parle, il faut essayer de deviner, il faut essayer de comprendre. Mm-hmm. Donc, beaucoup de fois, j'ai été dans ce qu'on appelle... j'allais dans un hôpital de jour, ou alors j'allais une fois de temps en temps pour faire un bilan, pour voir un peu ce qui se passait, l'évolution, etc. Et j'ai aussi eu un suivi psy, que ce mm-hmm. soit pour moi ou pour mes parents, surtout pour ma mère, pour voilà, essayer d'accepter les choses du mieux qu'on peut, en fait.
Et comment vous viviez ces passages à l'hôpital, vous, petite ?
Alors, moi, j'étais très contente d'aller à l'hôpital, mais surtout d'en sortir. Vraiment, j'étais contente d'en sortir. Ouais. L'avantage d'aller à l'hôpital, c'est que j'avais beaucoup de rendez-vous médicaux, donc je manquais souvent l'école. J'étais contente. Et quand je dis en sortir, c'est que souvent, j'allais faire ces examens et ces petits rendez-vous, ces réunions et tout, dans des structures un peu spécialisées. Mm-hmm. Là où il y avait beaucoup de personnes, d'enfants malvoyants et en situation de handicap. Et je me disais, bah, je suis contente de pas y être, en fait. Je suis contente d'être à l'école.
C'est voilà. des enfants qui étaient à plein temps, ce qui vous a replacé sur une échelle un peu plus juste.
Oui, enfin, c'est-à-dire que ouais. ma mère s'est vraiment battue pour que j'aille à l'école publique ouais. avec tous les élèves. Et je pense que beaucoup de mamans se reconnaîtront dans ce combat, j'imagine. Et donc ouais, j'étais contente de me dire... Bah, je suis pas ici, en fait.
Vous évoquez l'école, ça a été une vraie bagarre pour votre mère, pour vos parents, pour vous-même. Comment vous y êtes sentie à l'école ?
Mes premiers souvenirs d'école, ils sont vraiment pas cool. J'ai des souvenirs d'école pas très sympas, où je suis mise de côté, où la maîtresse veut pas de moi, où les élèves se mettent en rond autour de moi pour se moquer de moi. Vraiment, c'est dur. Et je pense que c'est ça qui a fait de moi quelqu'un de très dur après, en fait.
Oui. C'est-à-dire que... Quel impact est-ce que ça a sur la petite fille que vous êtes ? Est-ce que ça vous mettait en colère ? Est-ce que du coup vous aviez peur des autres, peur des adultes, peur des groupes d'enfants ?
Non, j'avais vraiment pas peur, ni des enfants ni des adultes. D'ailleurs, j'étais assez méchante et insolente. Mais j'étais triste, en fait, de pas faire partie du groupe. Et j'avais peur qu'on se moque de moi, j'avais peur d'être différente, donc je refusais plein de choses à l'école. Par exemple, je refusais d'utiliser ma loupe parce que j'avais pas envie d'être différent des autres. Très souvent, j'ai refusé d'avoir une auxiliaire de vie scolaire à côté de moi parce que je voulais pas que mes camarades de classe posent des questions et disent pourquoi elle a quelqu'un à côté d'elle. Je voulais pas tout ça, en fait. Je voulais vraiment effacer mon handicap le plus possible pour être acceptée, en fait.
Heureusement, il y a la maison, cette safe place, espace de sécurité, comme vous dites. Et là, il y a votre sœur, alors à la maison, avec votre sœur qui veut devenir chanteuse, vous montez sur la table basse, vous chantez tout le temps, vous chantez Sous le vent de Céline Dion, ou alors c'est Priscilla et tous les tubes du moment. Alors évidemment, Laurie, bah, c'est votre meilleure amie, quoi. Pré-ado ou jeune ado, vous rêvez de quoi, vous ? Votre sœur va être chanteuse, mais vous ?
Franchement, je sais pas. C'est marrant parce que quand j'étais jeune ado ou enfant un peu plus grande, je rêvais d'être un peu comme ma mère. Donc j'aimais bien le côté vie de famille, mère au foyer et tout, m'occuper de mes enfants. C'est pas du tout ce que j'ai fait finalement. Donc ouais, franchement, je pense que toute ma vie, elle s'est faite sur le côté un peu je vais avec ce qui vient à moi, en fait.
Est-ce que les autres filles ont fini par venir à vous. Est-ce que, comme dans la chanson de Laurie, parce que elle est pas, le choix n'est pas totalement anodin non plus, les amitiés prennent beaucoup de place pour vous sur scène, dans ce spectacle. Est-ce que ça commence quand? Ça commence à la fin de la primaire, au début du collège?
Alors, les amitiés, déjà, ma meilleure amie, c'est ma sœur. Et en fait, inconsciemment, mes amis ont été ceux de ma sœur d'abord.
C'est vrai?
Ouais. C'est-à-dire que j'ai jamais vraiment eu d'amis un peu à moi. Et petit à petit, après, en allant au lycée, donc c'est vraiment tard, j'ai eu des amis. Parce que je pense que c'est vraiment le côté, je m'accepte, je m'ouvre, je suis plus sympa, je suis détendue.
Et de toute façon, tous nos invités le disent, hein, le lycée, c'est quand même beaucoup plus cool que le collège. C'est-à-dire qu'au collège, il y a ce besoin de normalité et d'uniformisation qui fait que c'est souvent là... qu'ont lieu les plus grandes affaires de harcèlement, c'est primaire, collège, et qu'après au lycée, tout ça se détend un petit peu. C'est comme ça que vous l'avez ressenti aussi?
Ouais, je pense aussi qu'au lycée, il y a peut-être un peu plus de maturité de la part de tout le monde, en fait, moi y compris. Ouais, effectivement, le lycée, c'était plus facile. Je me sentais mieux, je me sentais bien, et j'étais à l'aise avec qui j'étais.
Sauf qu'à ce moment-là, il y a des conflits à la maison, parce que pour le coup, vous êtes toujours turbulente, voire de plus en plus, toujours rebelle, voire de plus en plus, donc souvent punie. Vous vous retrouvez privée de sortie, et là, face à votre poste de télévision, il y a quelqu'un qui va prendre de plus en plus de place dans votre imaginaire.
Je sais ce que vous ressentez, je sais. Non, je sais, je sais. Ça fait longtemps que vous m'avez pas vu, vous êtes en train de kiffer, c'est ça. C'est normal, voilà, c'est logique. Moi aussi, si par exemple, ça faisait longtemps que je me serais pas vu, je me revois d'un coup comme ça, hop, je suis en train de kiffer. Non, non. T'es en train de kiffer, toi, ça se voit, là. Voilà, si, Michel, allume une lumière pour voir un peu la tête. C'est extraordinaire.
Jamel, 100% de bouse, vous connaissiez par cœur, à l'époque?
Je connaissais par cœur, et vous savez, ce qui me fait plaisir, c'est de me dire qu'on a entendu Laurie, on a entendu Jamel Debbouze, et c'est deux personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer.
Ouais.
Laurie, parce qu'elle est très engagée dans tout ce qu'elle fait, dans toutes ces questions d'inclusion, etc. Et Jamel Debbouze, puisque je fais partie de la troupe du Jamel Comedy Club, et ça me fait plaisir de me dire...
C'est fou le chemin parcouru.
Ouais, exactement, que vraiment, complètement par hasard, je me retrouve un peu avec eux, quoi. Donc je suis vraiment trop contente. Et pardon.
En grandissant, vous êtes découvert, vous aussi, un certain talent pour faire rire les autres, mais... Plutôt, à ce moment-là, si j'ai bien compris, faire rire sur le dos des autres, c'est ce que vous écrivez. Vous avez été harcelée et vous avez fini vous-même par devenir harceleuse, vous diriez?
Ouais, c'est malheureusement exactement ce qui s'est passé. C'est que je me cherche aucune excuse, hein, parce que faut pas le faire, vraiment pas. Mais ouais, effectivement, je pense que toute la colère que j'avais accumulée et tout le rejet accumulé en primaire, au collège, etc., dès que j'ai eu l'occasion d'avoir un petit peu plus de force et de me dire « Oh bah c'est bon, aujourd'hui les gens m'aiment bien », j'ai l'idée un peu ce côté où j'harcèle les gens, quoi. Enfin les gens. Une personne en particulier, je pense que c'est le côté... j'ai été vers... En fait, je me suis vraiment vue à sa place, c'est-à-dire que la personne dont je parle, c'est une fille qui était dans ma classe au lycée et en fait... elle était un peu toute seule, où elle avait genre une ou deux amies. Et je me suis revue vraiment à sa place, vraiment seule pendant un moment. Et je me suis dit, en fait, c'est un peu une proie facile. Et je pense que j'ai compris. Et je me suis dit, vas-y, t'as le pouvoir. Va voir ce que ça fait, en fait.
C'est pour ça que c'est ce système qu'il faut défoncer. Parce que la violence engendre toujours.
Tout à fait.
La violence humoriste. Alors, est-ce que ce serait pour vous? Eh ben non, pas sérieux, n'importe quoi. C'est pas un métier, c'est à l'économie. Voilà, c'est ça. Et pour faire quoi? Ben non, on ne sait pas. Mais si la Terre est ronde, un jour, peut-être, vous retomberez sur vos pieds.
Au fond, je crois que la Terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison.
T'as besoin d'une voiture pour aller travailler. Tu travailles pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter. Tu vois le genre de cercle vicieux, le genre de truc qui donne envie de tout faire sauf de mourir vieux. Tu peux courir à l'infini, à la poursuite du bonheur. La Terre est ronde, autant l'attendre ici. J'suis pas feignant mais j'ai la flemme, et ça va finir en arrêt maladie pour toute la semaine. J'veux profiter des gens que j'aime, j'veux prendre le temps avant que le temps prenne et m'emmène. J'ai des centaines de trucs sur le feu, mais j'ferai juste ce que j'veux quand même. Au fond, je crois que la terre est ronde pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Au fond, je crois que la terre est ronde pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison.
Les rappeurs qu'un ils donnent les mêmes conseils que mes parents. Fais ce que tu veux dans ta vie, mais surtout fais de l'argent. J'essaye de trouver l'équilibre. À quoi ça sert de préparer l'avenir si t'oublies de vivre? En caleçon qui me sert de pyjama, au lieu de lécher mon patron pour une avance qui me filera pas. Ce soir je rameuterai l'équipe en attendant merci d'appeler, mais s'il te plaît parle après le bip. Aujourd'hui je me sens bien, je voudrais pas tout gâcher, je vais tout remettre au lendemain. Y'a vraiment rien dont j'ai vraiment besoin. On verra bien si je me perds en chemin.
Au fond, je crois que la terre est ronde pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Au fond, je crois que la terre est ronde pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison.
Pourquoi faire tout de suite tout ce qu'on peut faire plus tard,
plus tard.
Tout ce qu'on veut c'est profiter de l'instant.
L'instant.
On s'épanouit dans la lumière du soir.
Du soir.
Tout ce qu'on veut c'est pouvoir vivre maintenant.
Maintenant.
Pourquoi faire tout de suite tout ce qu'on peut faire plus tard,
plus tard.
Tout ce qu'on veut c'est profiter de l'instant.
L'instant.
On s'épanouit dans la lumière du soir.
Du soir.
Tout ce qu'on veut c'est pouvoir vivre maintenant.
Au fond, je crois que la terre est ronde.
La terre est ronde.
Pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Au fond, je crois que la terre est ronde pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Au fond, je crois que la terre est ronde pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison.
Aurel San, la terre est ronde. Parce que, Lilia Benchaban, pourquoi ce titre-là?
Parce qu'on est mieux à la maison. Non, ce titre-là, parce qu'il a rythmé mes allers-retours en bus au lycée.
Ouais.
Voilà, c'est Aurel San, c'est cette musique-là en particulier. On était nombreux à l'écouter. Et elle résonne en moi, parce que quand on écoute les paroles, bah, y a plein de petites morales, finalement.
Et on est mieux à la maison, donc.
Et on est mieux à la maison.
Ouais. Vous allez continuer à nous raconter votre histoire, celle qui vous a fait sortir petit à petit de cette safe place et vous en construire une autre à l'extérieur de la maison. Handicapée méchante, c'est le titre de votre spectacle ce soir sur France Inter. Vous êtes notre invité.
France Inter, En Marge, Julia Foyce.
Les gens osent dire, non mais Lilia, c'est pas un handicap que t'as, c'est juste un problème de vue. Eh ben venez, je vous crève les yeux et on verra. Non mais pour que vous compreniez bien, moi ma vie c'est un blind test. Il y a deux bilingues dans la salle. Moi je frôle la mort quasiment à chaque fois que je traverse la route. En général d'ailleurs je sais que la mort est pas loin quand j'entends « Casse-toi du milieu, connasse !» Ouais. Et c'est un peu ça le côté ingrat de mon handicap, c'est que je me prends beaucoup d'insultes parce que mon handicap ne se voit pas, comme moi. Qualité d'écriture exceptionnelle, hein. Merci. En fait si vous voulez, les gens voient pas mon handicap et moi je vois pas les gens qui voient pas mon handicap. On est sur un concept assez technique.
C'est piégeux, hein, ce handicap invisible. Parce que pour les autres, c'est pas vraiment un handicap, donc, Lilia.
Pour les autres, c'est supportable. C'est OK.
OK.
C'est te plains pas trop.
Donc, tout va bien.
Voilà.
Et donc, pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez 18, 20 ans, vous continuez, vous êtes tenté de le cacher, puisque les autres vous en voient que c'est pas si grave, puisque vous avez vécu ce rejet-là petite, la tentation, c'est de dire que... Il n'y a rien, tout va bien ?
Je joue un peu un double jeu, c'est-à-dire que je me sers de mon handicap à mon avantage quand c'est nécessaire et je m'en sers un peu comme une excuse. Je me dis, bah, puisqu'il est là, autant m'en servir.
Et quand, par exemple ?
Par exemple, je savais que je pouvais avoir des avantages du genre aller ne pas faire la queue au supermarché, c'est un avantage, hop, on prend l'avantage. Toutes ces petites choses du quotidien qui nous le facilitent, en fait, finalement, et où les gens se disent, bah non, mais finalement, t'es pas en fauteuil roulant, donc ça va, en fait.
Il y a ça, et puis d'un autre côté, est-ce que vous pouvez avoir la tentation de le cacher ?
Oui, je l'ai caché, jeune adulte, notamment dans le cadre des entretiens d'embauche. Hein.
C'est une hyper-adaptation constante, ça doit être épuisant, de faire comme si on voyait parfaitement, alors que ce n'est pas le cas.
En fait, je l'ai fait pour plusieurs raisons. Déjà parce que au début, c'était un peu le côté où j'avais pas envie qu'on sache que j'étais différente, enfin, ou que j'étais atteinte d'un handicap. Et il y a eu l'autre chose aussi, c'est que très souvent, j'ai eu l'impression de déranger. Et il y a parfois aussi des fois où j'ai besoin d'un renseignement ou j'ai besoin de quelque chose, donc je vais voir quelqu'un et là, on me regarde et me dit en fait, je suis occupée. Désolée, j'avais pas vu que vous étiez occupée. Quoi. Et donc, il y a le côté où c'est très humiliant mon grand âge, des fois, d'être prise de court comme ça, où j'ai pas envie de répondre, bah désolée, je suis malvoyante, j'avais pas vu. Donc ouais, il y a des fois où je le cache, en fait, et je me dis...
On se dit que c'est plus simple.
Ça va plus vite que de raconter ta vie. Ouais.
Bilan, au milieu de tout ça, quel souvenir est-ce que vous gardez de vos années d'université ?
Je garde, on va dire, de bons souvenirs, parce que j'ai eu de bons copains et copines, donc bonne ambiance. Mmh. Mais après, je dirais que mes années d'université, si je devais les résumer en un mot, c'était vraiment combat. Quoi. Pour avoir mon master, pour avoir ma licence, c'était vraiment bat-toi pour...
Parce que l'université n'est pas adaptée, parce qu'à force de vouloir faire comme tout le monde, sans pouvoir vraiment le faire, il faut se bagarrer tous les jours, c'est ça ?
C'est un peu les deux. C'est-à-dire que l'université est adaptée, mais parfois les profs refusent de s'adapter. Okay. Ils estiment que ce n'est pas leur travail et qu'ils ne sont pas payés pour ça, donc ils ne le font pas. Et aussi, des fois, où, pour ne pas déranger, encore une fois, on évite
de demander de l'aide,
etc. Ouais. Et puis après, souvent, on est oublié. Donc, voilà, moi, j'ai des souvenirs, et je crois que j'en parle un peu dans le livre, où très souvent, primaire, collège, lycée, on a oublié de m'agrandir mes documents. Donc là, le ou la prof a distribué un document dans la classe, c'est écrit en tout petit, et puis arrivé à moi, elle me dit « Oh bah désolé, j'ai oublié de te l'imprimer. Bah tu sais quoi, va au CDI, va l'imprimer. Ouais. » Donc bah... Ouais.
N'empêche, vous l'aurez, votre bac plus 5 en économie, chapeau bas madame. Merci. D'autant que, parallèlement, un drôle de virus vous a contaminé, vous n'avez même pas 20 ans, et un soir dans Google, vous tapez « Comment devenir humoriste ?» La suite, avec Beyoncé.
So deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand just how your love can do it, no one else can.
Elle vous a accompagné où et quand, Beyoncé ?
Elle m'a accompagnée souvent au lycée. Et elle m'a accompagnée sur le chemin entre la régie, où je récupère mon micro, et les scènes. Donc quand on traverse la salle pour aller jusqu'à la scène de spectacle, c'était mon son d'entrée. Voilà, donc c'est le son avec lequel je montais sur scène.
Parce que la suite, enfin le résultat de cette recherche Google, ça a été des scènes ouvertes à Paris.
Exactement.
Paname Comedy Club, c'est ça. Et donc, parce qu'il fallait que ce soit à Paris et pas à Lille, faire ça en secret.
Exactement. C'était vraiment mon jardin secret. Puis en plus, trop la honte si je me faisais, si quelqu'un me voyait et que j'étais pas drôle. Donc, j'ai fait ça dans le secret.
Ça se passe comment ces débuts sur scène ? Vous avez du public, le public suit ?
Alors, c'est vraiment un début dans le stand-up, c'est-à-dire que déjà, à cette époque, le stand-up, il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de comédie club à Paris ou à Lille.
On est en quelle année, là ? On est en 2016, 2017, 2018, c'est ça, hein ?
2016, ouais. À peu près, 2017. Et donc vraiment, le stand-up, ce n'est pas encore démocratisé comme ça l'est aujourd'hui. Mm-hmm. Et donc, il y a 5 personnes dans le public. La scène, elle est très, 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 très proche du public. On est dans une cave, on est à Paris. Et la scène, c'est des palettes.
Oh, wow.
Palettes avec un petit rideau rouge au-dessus. Voilà, mais il y a un petit micro, un petit tabouret, comme le veulent les codes du stand-up. Et
Mais voilà, c'est hyper sens, formateur, hein. J'imagine, en plus. Parce que si vous résistez à ça, si vous êtes encore debout, c'est qu'a priori, vous allez
exactement
résister à tout.
Exactement. Mais après, vous savez, c'est le début, donc on ne mesure pas du tout le danger. Ouais. C'est-à-dire que là, je me dis, pour écrire un deuxième spectacle, je vais essayer de me reconfronter à tout ça.
Ah oui.
Et ça va être beaucoup plus dur, parce que du coup, ouais, je vais aller dans des comédie clubs pour essayer de tester des nouvelles blagues. Mais maintenant que je suis habituée à avoir un petit peu plus de rire, c'est vrai que si j'en ai pas, parce que c'est pas drôle au début, ça va arriver. Parce que forcément, avant qu'un truc soit drôle, il l'est pas.
Et donc là, dans votre plus grande inconscience, vous vous accrochez. Et pendant un an, vous allez faire des allers-retours entre Paris et Lille, entre la scène et la fac. Vous l'avez promis à vos parents, vous irez jusqu'au bout. Moyennant une petite pause d'un an, grâce à un tour de passe-passe sur l'emploi du temps. Cette année-là, vous la passerez donc à Dubaï. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas ?
Alors, à cette époque, j'ai plein de potes de lycée qui prennent une année
sabbatique,
ouais, et qui décident d'aller à l'étranger, donc ils vont en Australie, etc. Sauf que moi, j'ai peur des araignées, donc je vais ni en Australie ni en Nouvelle-Zélande. Et donc, je m'inscris sur le site de Filles au Père comme ma copine. Elle remplit mon profil parce que moi, je ne parle pas du tout anglais. Et une famille donc, qui vit aux Émirats Arabes Unis me contacte et me propose du coup de venir pour apprendre le français aux enfants. Donc, je deviens Filles au Père à Dubaï.
Est-ce que cette famille vous parlait de votre handicap ?
Non, parce qu'en fait, je l'ai vraiment minimisé, encore une fois. C'est-à-dire que je l'ai vraiment caché. Je l'ai mentionné en disant « Ouais, je ne vois pas très bien. Donc voilà, il y a des fois où je ne verrai peut-être pas. » Mais sans plus, alors il y en a qui vont dire oui, c'est complètement inconscient, c'est du babysitting, tu prends soin d'enfants, mais tu vois pas.
Mais comment vous avez fait là encore ? Vous vous êtes hyper adaptée ?
Ouais, je me suis vraiment hyper adaptée et j'ai vraiment toujours. Alors je sais pas si c'est de la chance ou si pour moi aujourd'hui c'est juste logique de s'hyper adapter. Ouais. Je crois que c'est un peu un automatisme en fait finalement. C'est la première solution, c'est m'adapter. Si ça va pas et que vraiment je vois que je galère, là je dis ok, non, les gars, j'ai tort d'être quoi.
Vous êtes pas folle, vous alliez pas les emmener se balader au bord d'une falaise, de toute
évidemment
façon, faisiez attention.
Évidemment que
bon,
non.
Vous vous faites gauler parce qu'évidemment c'est marqué sur votre passeport.
Ouais.
Vous avez établi un rapport suffisamment bon avec les enfants et avec les parents pour qu'en fait ce ne soit pas un problème et que vous restiez là-bas. C'est quand même une sacrée victoire sur vous-même cette année à Dubaï.
Ouais, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de chance. En fait, j'aime bien les enfants depuis très longtemps et les enfants m'aiment bien. Enfin, la plupart des enfants m'aiment bien. Donc je suis contente, il y a un côté où à l'âge, je leur dis « Ouais, j'ai des yeux qui bougent et qui sont rouges parce que j'ai des super pouvoirs. » Donc ils sont contents en fait, ils sont très jeunes, du coup ils se disent « Ouais, trop cool, c'est un Pokémon. » Donc il y a le côté où j'ai gagné des points un peu comme ça. Et finalement, je me suis dit « Bon bah cool, j'ai trouvé un job d'été. »
Mais c'est la première fois que vous vivez seule, c'est pas rien ça non plus. C'est-à-dire qu'autant chez vous, vous connaissez la maison par cœur, donc vous pouvez être parfaitement autonome. Et là, c'est un nouveau pays, c'est une nouvelle famille, ce sont des nouveaux codes. Et puis c'est aussi un nouvel habitat dont vous ne connaissez strictement rien. Donc c'est en ce sens, chapeau bas aussi, parce que sacrée victoire quoi.
Bah, en fait, je me suis dit, il faut à un moment donné sortir de sa zone de confort, sortir de chez soi. Et moi, je remercie surtout mes parents de m'avoir laissé faire, parce que je pense que pour un parent, se dire « ma fille qui voit pas grand-chose, je vais la laisser partir hyper loin de nous, dans un écosystème qu'elle connaît pas du tout, ça va être trop compliqué ». Et finalement, non, ils m'ont laissé m'adapter et puis tout s'est très bien passé.
Mais vous finissez par rentrer, la scène vous manque, et puis entre-temps, on va dire que vos mots ont porté.
Il y a pas 30 ans, je rentrais chez moi, il faisait jour ou nuit. Je sais pas, parce que je vois pas. Et en fait, au loin, j'aperçois un individu dangereux, mais je continue, parce que je suis une femme courageuse. Et en fait, plus j'avance, mieux je vois la personne, et c'est là que je me rends compte qu'en moins de 5 minutes, courageuse ou pas, je me fais défoncer. Et là, je me rapproche, et c'était un buisson.
Cette vidéo, extraite d'une captation de la RTBF, a fait 8 millions de vues sur TikTok. C'était en 2020, en plein Covid. Qu'est-ce que ça change pour vous, l'explosion de cette vidéo ?
Ça change plein de choses parce que ce qui à la base était une éventualité de me dire oh, peut-être qu'un jour je deviendrai humoriste et je pourrai vivre de mes blagues, ça devient tout à coup une possibilité. Et donc il y a le côté où je me dis ouais, c'est possible, ça peut se faire, etc. Les gens, ça les intéresse finalement. Puisque c'est quand même un sujet assez niche. Elle voit pas, elle est albinos, ok, super, mais peut-être que ça intéresse pas les gens. Et finalement, j'ai été ravie de savoir que. Bah, ça intéressait les gens. Donc,
Et puis tout s'enchaîne. Septembre 2021, la directrice du Comedy Club de Lille vous donne 6 mois pour écrire votre spectacle. Elle vous en sent capable. Elle vous dit le 18 mai, ce sera ta première. Alors vous flippez, mais alors comme une bête. Hein.
Ouais.
Mais le gant, vous le relevez. Handicapée, méchante, aînée. Et depuis, vous n'avez plus arrêté.
En marge. Sur France Inter.
Bon, vous l'aurez compris, moi je suis plus connasse qu'handicapée. Et ça, c'était pas dans le package de départ, ça s'est développé avec le temps.
Et moi, pendant très longtemps, j'ai pensé que pour être aimé des autres, il fallait mettre ses différences de côté et s'efforcer de rentrer dans des cases. Alors qu'en fait, non. En fait, pour être aimé des autres, il faut d'abord s'aimer soi. Et moi, maintenant, je m'aime. Je m'aime le matin, le midi, le soir, à l'heure du goûter. Je m'aime vraiment tous les jours de l'année, tu vois. Et alors là, vous allez me dire, super Lilia, tu te kiffes. Et après, on fait quoi? Et ben après, on est là et on fait ça. Et tout ça, c'est grâce à tout l'amour que m'a apporté. Et grâce à cet argent, grâce à cet amour, j'aurais pu choisir dans une fondation pour les malvoyants ou de faire péter la deuxième Rolex. Et devinez quoi? J'ai décidé de faire péter la deuxième Rolex.
À part la deuxième Rolex, avec le recul, le succès, la scène, qu'est-ce que ça règle? Qu'est-ce que ça apaise, si ça règle et si ça apaise des choses?
Je pense que ça dédramatise les choses, pour le public comme pour moi,
ouais.
Où on se dit, il y a pire, il y a mieux, ça va aller, c'est pas la fin du monde.
Vous avez fait un sacré chemin, on l'entend, hein, concernant votre handicap. Dans votre livre, ce handicap, vous l'appelez Franck. Pourquoi?
Oui. Parce qu'en fait, je me suis dit, il faut lui trouver un nom. Du coup, je me suis dit, Franck, c'est sympa. Franck, c'est un nom de gars qui est gentil, mais un peu relou. Et Franck, il est gentil, mais un peu relou. Donc, mon handicap est gentil, mais un peu relou.
Et vous dites qu'aujourd'hui, vous faites équipe avec lui.
Ouais.
C'est-à-dire, au sens où il vous apporte des choses aussi, vous réussissez à le transformer, en faire quelque chose. C'est dans ce sens-là?
Oui, c'est dans ce sens-là, parce que... indépendamment de ma volonté de départ, finalement aujourd'hui, par les sujets que j'aborde et par ce que j'ai vécu, je me retrouve des fois un peu engagée auprès d'autres personnes, auprès d'associations, je participe à des événements, etc. Et j'essaie de sensibiliser sur la question de l'inclusion, du handicap, etc. Et donc, je suis contente de pouvoir aider et de pouvoir... entre guillemets, donner de l'espoir avec beaucoup d'humilité, hein, je dis ça. Mais souvent, je reçois des messages ou des mamans qui viennent me voir à la fin du spectacle et qui disent, bah voilà, moi, mon fils, ma fille est albinos, il voit pas très bien. Et je me suis longtemps inquiétée, mais ça me fait plaisir de voir qu'il peut faire. En fait, tout est possible, finalement. Et donc ouais, ça apporte des choses.
En tout cas, ce que vous en avez fait vous a permis de donner un sens à votre travail, à qui vous êtes, et puis donner un sens à d'autres aussi. Et ça circule, quoi.
Exactement. Puis après, il y a le côté aussi où, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Quand on vit avec quelque chose qui ne se guérit pas, c'est soit on fait avec, soit on fait contre. Et c'est fatigant de se battre contre un truc.
Donc on fait avec Franck.
Exactement.
On regarde devant maintenant, et comme avec vous, tout est toujours, comment dire, un pas de côté, pas devant, c'est derrière.
Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter. Et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec désinvolture. Hier encore,
vous êtes déjà nostalgique de vos 20 ans, vous en avez 28, hein, je précise pour ceux qui ne sauraient pas faire le calcul.
Ouais. Vraiment, je suis vraiment déjà nostalgique. Déjà, je sens que j'ai un peu moins d'énergie.
C'est vrai?
Ouais, je vous jure, un petit peu moins. Il y a 10 ans, j'étais hyper contente. Enfin, pas hyper contente, mais genre, il y a le côté où j'étais peut-être inépuisable, on va dire. Alors que là, des fois, je suis un peu fatiguée.
Enfin, en même temps, à 20 ans, vous ne faisiez pas des tournées, vous n'étiez pas dans les trains tous les jours et dans des endroits différents tous les jours.
C'est possible.
Peut-être ça joue. Si je peux me permettre une hypothèse.
C'est un détail, effectivement.
Il est possible que ça joue.
C'est un détail. Mais ouais, je suis très nostalgique des débuts. Je suis contente qu'on en soit arrivé là. Mais c'est vrai que les débuts, le fait d'en parler, les premiers comédie club, juste ce côté un peu, c'est nouveau et je sais pas ce qui se passe.
Bah là, ça va bientôt être nouveau, puisque vous le disiez, vous songez au deuxième spectacle. Si on se projette, vous essayez de le faire dans votre livre, alors vous avez déjà du mal à vous projeter à une semaine, ce que vous dites, donc vous projetez à 10 ans, c'est encore plus compliqué, mais bref, votre plus grande crainte pour l'avenir, pire encore que de vieillir, ce serait ne plus être drôle.
Faire rire aujourd'hui, c'est un peu mon quotidien, c'est mon travail, c'est ce qui me permet de vivre.
Puis c'est votre super pouvoir aussi.
Exactement. Donc je me dis, si un jour je ne le suis plus, ce qui peut potentiellement arriver, qu'est-ce qui se passera en fait finalement?
Qu'est-ce qui fait qu'on n'est plus drôle? Vous avez 4 heures, Lilia Ben-Chaban.
En fait, je pense que si mon angle et ma façon de voir les choses changent un jour, ce que j'espère jamais, je pense que je me dis, peut-être que je serai moins drôle.
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'elles, elles vous laisseront jamais tomber. Qu'est-ce que c'est?
C'est ma paire de lunettes. C'est ma paire de lunettes. Alors, dans le spectacle, c'est des lunettes blanches et carrées. On va pas dire pourquoi, parce qu'on va pas spoil.
Non.
La surprise, l'effet de surprise.
Mais c'est vrai. Il y a un effet visuel très fort.
Exactement. Ouais, toujours une petite paire de lunettes de soleil avec moi, pour le style. Voilà, ça peut accessoiriser un look. Et aussi, parfois, quand ça va pas, on met nos lunettes de soleil et on peut pleurer sans que personne ne le sache.
Ça, c'est pas mal.
Et ça, c'est bien.
En marge, c'est terminé pour ce soir. Lilia Benchaban, handicapée méchante, c'est au théâtre du Marais jusqu'à la fin du mois, le dimanche à 18h. En juillet, ce sera les samedis, puis vous serez en tournée jusqu'au mois d'octobre. Au moins, vous êtes également la marraine du festival Unique. Ça, c'est pour mi-mai. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, s'il vous plaît?
C'est le premier festival de l'égalité des chances créé par l'association Diversity Days et France Travail.
Ma vie est un blind test. Votre livre est édité chez Solar. Merci à toutes, à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.